J'ai préféré faire une présentation en deux parties. La première partie, je vais commencer par des repères historiques et puis la présentation de la langue, des choses que probablement vous connaissez, mais d'autres vous connaissez pas. Et puis on va passer après à la linguistique. Je commence donc par la langue. Le berbère, ce qu'on appelle le berbère, qu'on appelle aussi maintenant amazigh, parce que berbère, on prend pour quelque chose de péjoratif. Donc les gens préfèrent maintenant, surtout ceux qui sont militants, ils préfèrent le mot amazigh. Et c'est la première langue de l'Afrique du Nord, autant d'après ce qu'on sait. Et c'est sur un domaine vaste. Vous avez ici une carte où ça va vraiment sur toute l'Afrique du Nord, de la Mauritanie, passant par le Maroc, l'Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, l'île de Siwa, et en redescendant sur le Niger et le Mali. Tout ça, c'est un domaine où on trouve le berbère. D'accord ? Et quand vous regardez les cartes des langues, généralement, on vous donne des zones qui sont un peu, comment dire, en couleur. On dit ça, c'est l'arabe, ça, c'est le berbère. C'est très difficile. Très difficile. Il faut pas toujours prendre ça pour quelque chose de vrai. C'est-à-dire, c'est un mélange. Sur ces territoires-là, vous avez des populations qui sont un mélange de arabophones et berbérophones. Très bien. Donc, un domaine qui est vaste et un nombre estimé de berbérophones entre 22 millions et 30 millions. C'est un écart important, mais c'est dû au fait que, en fait, par cette politique d'arabisation, les gens, en quelque sorte, des fois, ils répondent qu'ils sont arabophones alors qu'ils sont berbérophones. Et d'ailleurs, historiquement, on sait que c'était probablement moins de 10% de musulmans arabophones qui étaient venus en Afrique du Nord. Et puis après, par des vagues successives d'arabisation, on est arrivé à l'état actuel. On a moins de 40% de locuteurs, par exemple, au Maroc. Et amazigh, juste comme ça, en passant, amazigh signifie, c'est un mot qui signifie homme libre, littéralement. Au Maroc, il y a trois variétés principales. Si vous le voyez comme ça, c'est pas très clair sur la carte, mais vous avez trois variétés principales. La plus importante en termes de nombre de locuteurs, c'est le tachlihit, ce qu'on appelle chleh. Le tachlihit, vous l'avez ici, d'accord ? Sud-ouest du Maroc. Ça va au contact du Tamazirt, Moyen Atlas. Là, c'est une zone qui est assez intéressante parce que c'est une zone de contact où vous avez des locuteurs qui comprennent les deux, en fait. Mais l'intercompréhension entre des gens qui sont ici, par exemple, principalement autour de Agadir, et ceux qui sont dans Moyen Atlas, elle est très difficile. On peut comprendre, mais moins de 50%. D'accord ? Et tout au nord, vous avez le Rif, hein, Tarifit. Et les locuteurs sont estimés à 12 millions. 40% de la population au Maroc, il y a à peu près un peu plus de 30 millions d'habitants maintenant. En Algérie, c'est 7 millions, principalement des Kabyles. Et puis, comme je l'ai dit, pas ou peu d'intercompréhension entre ces différentes variétés. Alors, au Maroc, l'amazigh est devenue langue officielle depuis 2011. Inscrit dans la Constitution, au même titre que l'arabe. Pour ceux qui sont curieux, ils peuvent aller regarder la Constitution, comment c'est formulé, c'est quand même très bizarre. Ils disent « L'arabe est la langue officielle de l'État marocain, le berbère est une autre langue officielle. » Donc, vous avez linguistiquement, c'est intéressant d'analyser ça. La langue définie, puis l'autre, une autre langue officielle. En Algérie, c'est une langue nationale depuis 2002, et puis... langue officielle depuis 2016, si je ne me trompe pas. Et au Niger, au Mali, c'est une langue nationale depuis l'indépendance. Hein. Et, mis à part le Maroc et l'Algérie, dans les autres pays, ce sont des variétés qui sont en danger, notamment en Mauritanie, en Tunisie, en Égypte et en Libye. On a un système d'écriture qu'on appelle le diffinar. Diffinar que certains analysent comme étant une racine qui est reliée phénicien. Donc, ils possèdent leur système depuis au moins 2200 ans, qu'on utilise encore chez les Touaregs, et qui ressemble à ça. Ça, c'est le néo-diffinar qui est adopté au Maroc depuis 2003 comme système d'écriture. C'était en quelque sorte un choix à ce moment-là, en 2003, quand Il était question de choisir un système d'écriture. C'était un débat politique parce qu'il y avait le choix entre soit les caractères latins, caractères arabes ou caractères tifinards. D'accord. Et pour, en quelque sorte, politiquement, pour faire plaisir aussi bien à ceux qui défendent le caractère latin et à ceux qui défendent le caractère arabe, on a dit on prend les tifinards. Comme ça, tout le monde est content. Donc, le tifinard, vous avez le système ici qui est rapidement, vous avez le A ici, B, G et G. C'est une différence phonémique. G et G. D et D. Vous voyez un peu, tout le monde ne maîtrise pas pour l'instant ce système d'écriture, mais on voit les difficultés, par exemple, qui peuvent se poser pour les enfants à l'école, parce que c'est enseigné maintenant à l'école, c'est obligatoire. Vous voyez un peu comme la situation qu'on a en français entre feu et feu, qui est PH et le feu. Ça, D et D, c'est le même son. C'est juste une emphase qui est ajouté, mais le graphème est complètement différent. Je passe. Donc ce système-là, aussi utilisé par le Haut Commissariat à la Mazirité en Algérie, en plus des caractères latins et arabes. Quelques repères historiques. Les habitants de l'Afrique du Nord ont été en contact depuis l'Antiquité, déjà, ce qu'on sait, avec plusieurs civilisations. Ils ont été en contact avec les Égyptiens. Et ils ont eu un pharaon, la 22e dynastie, il s'appelle Chichandre. C'est un berbère. Ils ont été en contact avec le Punique, notamment avec Carthage. Le grec, par des œuvres, dont celle de Juba II, dont je vais parler un peu plus tard, qui a écrit des œuvres en grec. Et le latin, pendant toute la durée de la domination romaine et de la période chrétienne. Le latin a laissé quelques vestiges linguistiques. On a des emprunts au latin. Par exemple, Afullus, si je vous dis Afullus, c'est poule, poulus, d'accord. Asinus, asnus, c'est l'anon. On a des mots comme ça. L'arabe, on contacte avec l'arabe depuis la conquête de l'Afrique du Nord par les musulmans au 7e siècle. Le français et l'espagnol à travers la colonisation. Saint-Augustin, né à Tagaste et mort à Annaba, en actuelle Algérie. C'est un grand penseur du christianisme, tout le monde connaît, et a laissé une œuvre considérable qu'on connaît jusqu'à maintenant. Juba II, c'est un roi de Mauritanie, 25 avant Jésus-Christ. Il figure au triomphe de César avec Vercingétorix historiques et Sinoé. Il a épousé Cléopâtre Sélénée, la fille de Cléopâtre. Et puis, Diya, c'est une femme. Quand les musulmans sont arrivés pour conquérir l'Afrique du Nord, elle s'est opposée. Elle a en fait rallié toutes les tribus, notamment en Algérie, autour d'elle, pour combattre les musulmans. Elle les a d'ailleurs combattus, ils sont repartis, et puis après ils sont revenus avec un peu plus de militaires, et puis ils ont fini par la battre et la tuer. Ça, c'est une statue qu'on trouve en Algérie. Hein. Alors, un peu plus tard, vous avez l'Andalousie que tout le monde, quand on pense à Andalousie, on pense aux Arabes qui ont été en Andalousie. Les premiers, c'était les Omayyades. Évidemment, ils ont régné sur l'Andalousie, mais il y a eu des dynasties après qui sont complètement et purement berbérophones. Les Almohades, les Almoravides, ce sont des berbérophones venus du Maroc qui ont régné sur l'Andalousie. Et vous avez ici quelques figures. Vous avez Ibn Firnas. Si je ne me trompe pas, je crois que son nom a été latinisé. Ça s'appelle Armen Firman, si je me trompe. D'accord. C'est le premier planeur. Il a essayé de voler. D'accord. Et cette statue-là, vous l'avez à l'aéroport de Bagdad. C'est lui. Et vous avez aussi Abul Qasim al-Zahraoui, qu'on appelle Abul Qasis, père fondateur de la chirurgie moderne. Je passe. Il y en a d'autres, mais je me contente de cela. Maintenant, en France, aujourd'hui, on a une des plus importantes communautés d'origine étrangère en France. Ce sont les berbérophones. Leur nombre est estimé à 1 500 000. D'accord, toute origine confondue. Algérie et Maroc. L'immigration maghrébine a d'abord été berbérophone, aussi bien à partir de l'Algérie, dès le début du XXe siècle, que à partir du Maroc. D'abord les Chleux, qui sont arrivés après la guerre, la Deuxième Guerre. Ils ont été rejoints un peu plus tard par d'autres berbérophones, notamment des Aurès pour l'Algérie, le Rif, la province orientale pour le Maroc. On les confond souvent, quand on parle en France et en Europe, on confond l'immigration nord-africaine avec les arabophones. Ils font partie dans la catégorisation courante de la population arabe ou arabo-musulmane, ce qui est faux, évidemment. On dit tous l'arabe du coin, mais ce n'est pas l'arabe. Généralement, quand vous essayez de parler avec lui l'arabe, et il peut vous répondre en berbère. Maintenant, en termes de politique linguistique, le berbère ne bénéficie que d'une prise en charge institutionnelle extrêmement modeste en France, d'accord ? Limitée presque exclusivement à l'université et à la recherche scientifique. La recherche scientifique qui est faite autour de cette langue-là, notamment en phonologie, c'est ma spécialité. J'ai oublié de me présenter, je suis chercheur au CNRS, je travaille sur la phonologie de cette langue-là. D'accord. Cette langue est connue dans le domaine de la recherche scientifique par le fait qu'elle a très peu de voyelles, 3 voyelles, on va le voir un peu plus tard, et puis elle peut faire des phrases entièrement que de consonnes. Hein ? C'est ça la chose la plus connue dans la littérature sur cette langue-là quand on s'y intéresse d'un point de vue scientifique. Donc, le seul établissement où on peut trouver l'enseignement de cette langue-là, c'est l'INALCO. Ma collègue en a parlé tout à l'heure. Donc, l'INALCO, c'est le seul établissement à proposer un cursus complet de la langue amazigh de la licence au doctorat. L'enseignement y a débuté en 1913 avec une initiation à différents dialectes et formations théoriques en linguistique, littérature et civilisation. Il y a les 3 variétés qui sont enseignées, le kabyle, le chleu et le touareg. Il y a 2 semaines, j'ai fait passer les oraux de Tashlehit au baccalauréat professionnel. Voici le système consonantique. Il y a 35 consonnes dans cette langue-là. 35 consonnes. Alors 35, en quelque sorte, parce qu'on fait une distinction, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre un T et un T. D et D. C'est une caractéristique linguistique très intéressante. On va voir pourquoi quand on parle, quand on l'oppose au français. D'accord ? Et on a aussi une distinction entre que et que, gue et gue. Hein? On a aussi les gutturales, ce qu'on appelle les gutturales, que, quoi. Hein? Re, re, c'est un peu comme le R, c'est un peu comme le R français. D'accord? Et le re, c'est celui qu'on entend dans travail, quand on prononce travail. D'accord? Et puis, on a d'autres consonnes qui sont assez connues dans d'autres langues. Concernant les voyelles, il y a 3 voyelles, comme je l'ai dit avant. Il y a surtout quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, les voyelles I et U alternent systématiquement, dans des contextes bien précis, je ne vais pas détailler ici, avec ce qu'on appelle les semi-consonnes. Donc, un I peut devenir ye et un E ou peut devenir we. C'est très systématique, d'accord ? Et ça pose évidemment problème, quand on parle d'enseigner le français à ses locuteurs natifs du berbère, de l'acquisition de la liaison. D'accord ? Dans des contextes où ce type d'alternance apparaît. Moi, je n'ai jamais réussi à mettre en place la liaison pour ce mot qui est oiseau. Parce que pour moi, ça commence par une consonne. Je fais toujours un oiseau. Je me corrige après parce que je sais que c'est un contexte où il faut faire la liaison, mais c'est quelque chose qui est intéressant parce que oiseau, ça fait la liaison, mais wallabi, ça ne fait pas. Et pour un locuteur du berbère, c'est la même chose. Oiseau et wallabi commencent par la même chose, le même son. D'accord. Donc, on peut avoir des problèmes de ce point de vue d'acquisition de la liaison. What et what. D'accord. Et on a, en termes de voyelle, l'absence de U. Il n'y a pas de U. Alors, parfois, il est adapté comme généralement comme un I, parfois comme un O, mais généralement comme un I. Donc vous avez des emprunts en français qui est but, qui est adapté en berbère comme le bit, d'accord ? On marque un but, le bit, d'accord ? Et puis bureau, le bureau, je vais au bureau, je vais le bureau, rire le bureau. Et on a cette absence, encore c'est un autre problème qui est un peu comparable à ce que j'ai... mentionné pour la liaison, c'est la semi-consonne V. C'est là aussi pose un problème, parce qu'on a ye et w, mais on n'a pas v. Et donc v est souvent rendu par w. D'accord. Et lui et lui, que vous entendez que j'essaye, je force, mais pour moi, ce n'est pas distinctif. D'accord. Il est 8 heures. D'accord. Avant, je disais 8 heures. Donc ça, c'est aussi une difficulté à regarder. Et l'absence, évidemment, de voyelle nasale, ça, vous l'avez dans la fiche didactique que vous avez, qu'on vous a donnée. Et donc, il n'y a pas de voyelle nasale, et toute voyelle nasale est analysée comme une voyelle orale plus une consonne. D'accord. Et les mots emprunts fonctionnent exactement comme ça. France, c'est França. Banque, c'est Banca. Et puis, rond-point, c'est rampan. Absence de voyelle moyenne, sauf au voisinage de consonnes emphatiques. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les emprunts, là encore, qui sont faits au français, toute voyelle moyenne appelle une consonne emphatique. Et rappelez-vous que les consonnes emphatiques, un T opposé à un T, sont phonémiques, qui sont distinctives dans cette langue-là. Donc, automobile, ce qu'un locuteur du français fait d'une manière, d'un point de vue phonétique, mais sans que ce soit phonologique, eh bien ici, c'est perçu comme étant quelque chose de distinctif par les locuteurs natifs du berbère. Donc, automobile est adapté comme tamobile. Et là, on trouve un O, qui n'est pas par ailleurs phonémique dans cette langue-là. Autobus, c'est tobis, et ainsi de suite. Et difficulté à distinguer les deux degrés de voyelle moyenne. Parce que vous allez me dire que pour les locuteurs natifs du français aussi, c'est le cas, d'accord, et des difficultés de syllabation dues aux différences dans les structures syllabiques des deux langues. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand il y a des différences de structure syllabique, c'est que globalement, ce qu'on dit en phonologie, c'est que chaque langue a sa propre structure syllabique, d'accord. Et la structure syllabique du français est différente, à quelques égards, de celle du berbère. En français, on a ce qu'on appelle les attaques branchantes ou les attaques complexes, typiquement pour que ça parle à tout le monde. En français, quand vous commencez un mot, on le commence toujours par une suite qui est de même nature. Vous pouvez avoir un mot toujours qui commence par bleu, bleu, mais jamais un mot qui commence par lbe. D'accord. Tre, travail, mais jamais rte. D'accord. Ça, c'est très systématique en français. En berbère, on n'a pas ça. En berbère, on peut avoir un mot qui commence par « tre » et un autre qui commence par « te ». Donc, on dit qu'il n'y a pas d'attaque branchante. Donc, on peut avoir un mot comme « krou » et un autre comme « rku ». Qu'est-ce que ça pose? Ça pose problème pour la syllabation. Pour la syllabation, si on demande à un enfant combien il y a de syllabes dans un mot comme « parti », il va dire « deux » ou « finit la première ». Il va probablement dire « par-ti ». Vous lui faites la même chose pour « patrie », deux syllabes, ou finit la première « pat », la deuxième « ri ». Ça, je pense que tout le monde l'a remarqué, ceux qui sont confrontés à ce type de problème. Ça vient de l'influence de la phonologie du berbère. De ce point de vue-là, un locuteur natif du français ne va jamais faire « pat », « ri », il va faire « patrie ». Maintenant, la phrase. Combien de temps il me reste? Ok. Pour la phrase, ordre des constituants, on a par défaut verbe, sujet, objet. On peut avoir sujet, verbe, objet. Quand vous demandez à un locuteur du berbère de vous faire une phrase, il va faire verbe, sujet, objet. Maintenant, on lui dit essayez de mettre le sujet avant, il va le faire, mais ça correspond à quelque chose qui est qui correspondrait en français à une forme de topicalisation. Hein? On met en relief le sujet en le mettant en tête de la phrase. C'est ça que ça veut dire pour lui. D'ailleurs, aussi bien pour les locuteurs du berbère que ceux de l'arabe, ils font souvent ça, pour certains de manière systématique quand ils parlent français, ils vont faire « Jean, il ». Ils reprennent avec un pronom derrière. « Jean, il a pris le train. Et c'est ça exactement l'ordre sujet-verbe-objet quand on demande à un locuteur du berbère de le faire. D'accord. La négation. La négation, elle est morphologique. Qu'est-ce que j'entends par morphologique ? Ça veut dire qu'on va, toucher au verbe, à l'intérieur même du verbe. Hein ? On a une particule qui est « ur », qui se place devant le verbe, mais on va modifier aussi le verbe à l'intérieur. Donc, « ilkim », il est arrivé, il n'est pas arrivé « ur ilkim ». Vous avez vu que la « ur », qui est négation, mais un « i » qui s'ajoute après, entre les deux dernières consonnes. Ça a tendance maintenant à être neutralisé, le « i » n'est plus réalisé par les jeunes maintenant, ils disent « ur ilkim ». On va revenir un peu sur la négation un peu plus tard. Je dis ça parce que ce qui suppose négation, double négation en français, d'accord, ne pas, probablement que, je ne sais pas, mais probablement que c'est faux, mais il va y avoir un problème pour l'acquisition de la double négation pour ceux qui ont qu'un seul morphème pour marquer la négation. Voilà. Les phrases interrogatives, il y a un marqueur interrogatif qui est « is ». On met en tête de la phrase et puis on fait la forme interrogative. Il précède le verbe. Et c'est comparable à « est-ce que ». D'accord. Il est également utilisé ce même morphème « is ». Il est utilisé dans une forme d'interrogation indirecte, l'équivalent en français de « si ». « Saksatafrorti basisilkim » La fille a demandé à son père s'il est arrivé. D'accord. Is ilkm. Il boisse. Est-ce que son père est arrivé? Le même is. Le verbe. C'est le berbère est une langue aspectuelle, exactement comme l'arabe. On distingue ce qui est accompli de ce qui est non accompli, qu'on appelle aussi perfectif et imperfectif. Une action achevée ou non achevée. Donc, problème pour l'acquisition des temps. L'accompli, à l'intérieur de l'accompli d'un accompli, on distingue négatif et positif. J'ai parlé de la négation tout à l'heure. Donc, on a accompli positif et accompli négatif. Ilkim, urilkim. Et puis, pour l'inaccompli, arilkim. Vous avez le ar qui s'ajoute et puis on gémine. La gémination, c'est quand on fait une tension sur une consonne particulière. Donc le que, c'est une consonne tendue, géminée. Arilkem, la forme négative, ureilkem. La gémination n'est pas distinctive en français, elle est expressive, même si dans certains contextes, on peut aussi... je l'ai vu, je l'ai dit, ou des choses de ce type-là. Mais généralement, en français, elle n'est pas distinctive. Et on aura tendance, pour le locuteur du berbère, à l'utiliser là où il n'y a pas besoin. Le verbe est fléchi pour la personne, le genre et le nombre. Tous comme des préfixes et ou des suffixes. Des préfixes et ou des suffixes J'avais une diapositive. Où est-ce qu'elle est ? Je voulais vous donner... Non, je ne l'ai pas ici. Oui, j'avais un tableau où il y avait un paradigme du verbe. Donc, vous avez des préfixes et des suffixes. Et où les suffixes, c'est ce qu'on appelle parfois des circonfixes. C'est-à-dire que ça va se mettre aussi bien par préfixe que par suffixe. D'accord ? Je vous donne oralement comme ça. « L'kem » que vous avez vu avant, c'est arrivé. L'kmer, je suis arrivé, c'est un r pour la marque de la première personne. T'lkmt, un t au début et un t à la fin, c'est la deuxième sans distinction de genre. Ilkm, il est arrivé, c'est un i devant le verbe. T'lkm, le t devant le verbe, c'est la troisième féminin. N'lkm, le n, première pluriel. T'lkm, avec un m qui s'ajoute. Deuxième pluriel masculin, tilkemt, avec un t qui s'ajoute et le m aussi, c'est la deuxième féminin. Et puis après, la troisième, on distingue aussi plus féminin et masculin, c'est lkemn et lkemnt. Donc c'est vraiment, pour la marque de la personne, c'est les préfixes et les suffixes. Le nom. Le nom est fléchi pour le genre et le nombre. Le nombre singulier et pluriel, contrairement à l'arabe standard ou à l'arabe littéraire qu'on distingue aussi le duel, il n'y a pas de duel dans cette langue-là. D'accord. Donc, le genre masculin-féminin, le nombre singulier et pluriel. Le genre féminin est préfixé et suffixé, c'est ce que j'ai appelé circonfixe. Afrour, garçon, on rajoute le T au début et le T à la fin, ça donne fille, féminin. D'accord. Afrour, tafrour. Le nombre est suffixé. Alors là, le nombre, il peut avoir plusieurs formes pour son morphème du nombre. Ça peut être ne, an, aun, ou ça peut être même une alternance vocalique. Par exemple, anou au singulier, pour puis, donne au pluriel una. On a juste interverti les voyelles. C'est ce que j'appelle alternance vocalique. Le nom porte aussi ce qu'on appelle la marque de l'état, en distinguant deux états, l'état libre et l'état construit ou l'état d'annexion, qu'on appelle aussi. D'accord. Vous avez ici deux exemples. Isha afoulus, il a mangé le poulet. Supposez quelqu'un a mangé le poulet. D'accord. Et vous avez vu que ici, afoulus commence par une voyelle A. Le même nom, quand il est à l'état libre. Le même nom, quand il est à l'état construit, ça devient O. Là, c'est supposé que c'est le coq qui a mangé quelque chose. D'accord. Certains l'ont analysé comme un marquage de cas, mais un cas abstrait vraiment, parce qu'il y a plusieurs types de constructions, ça peut apparaître. Il n'y a pas de déterminant, pas d'article défini et d'article indéfini. C'est le discours qui donne la définitude. Même s'il y a débat dans ce cas-là, mais on peut s'attendre à probablement, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas s'il va y avoir des difficultés pour l'acquisition du déterminant du français, mais ce qu'on remarque généralement, c'est que dans les mots empruntés au français, l'article défini « le » va être incorporé au nom, il va faire partie du nom, il n'est plus du tout analysable, d'accord ? Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai donné « bureau ». C'est adapté comme les bureaux. Hein. Et si on veut mettre indéfini, on rajoute un, chiffre 1. D'accord, yen. Bon, voilà, je crois que c'est fini. Merci beaucoup.